Vous êtes bien sûr Radio Orient, il est midi, le journal François-Xavier de Calonne. La pauvreté en France ne recule plus depuis 20 ans, c'est ce qu'indique l'Observatoire des inégalités qui a récemment publié son rapport annuel. Notre invitée sera Anne Brunner, directrice des études de l'Observatoire. La France rappelle son attachement absolu à la préservation du statu quo sur les lieux saints de Jérusalem, une réaction après la visite du nouveau ministre israélien sur l'esplanade des mosquées. Les derniers tirailleurs sénégalais pourront vivre dans leur pays en touchant leur pension, une décision du gouvernement français. L'invité de Pluriel hier soir était Emmanuelle Cosse, ancienne ministre du Logement, présidente de l'Union sociale pour l'habitat, extrait de votre édition. La France rappelle son attachement absolu à la préservation du statu quo sur les lieux saints de Jérusalem. C'est ce qu'indique le consulat général de France à Jérusalem après la visite du nouveau ministre israélien sur l'esplanade des mosquées. Un geste vu comme une provocation 5 jours à peine après la formation du gouvernement le plus à droite de l'histoire d'Israël. Ce déplacement a déclenché de vives condamnations de la part de plusieurs pays. Toute action unilatérale qui mettrait en danger le statu quo autour des lieux saints à Jérusalem serait inacceptable, avertit la porte-parole de la Maison-Blanche. Le ministère palestinien des Affaires étrangères à Ramallah déplore une provocation sans précédent. Gros plan sur la pauvreté en France. Elle ne recule plus depuis plus de 20 ans. 4,8 millions de personnes étaient pauvres en France en 2020. Dans son dernier rapport, l'Observatoire des inégalités met aussi l'accent sur la grande pauvreté qui concerne au moins 2 millions de personnes. Anne Brunner, directrice des études de l'Observatoire des inégalités.
On compte 4,8 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté en France. Ça représente 7,6% de la population. Et le seuil de pauvreté en France, mesuré ici à la moitié du niveau de vie médian, c'est-à-dire qu'on est considéré comme pauvre quand on gagne moins que la moitié de ce que gagnent les classes moyennes, il est de 940 euros après les prestations sociales pour une personne seule. Pour vous donner une idée de ce que ça représente pour un couple avec deux enfants jeunes, c'est environ 2000 euros par mois après les prestations sociales. Comment est-ce que ça a évolué, hein? C'est un petit peu ce qu'on essaye de tirer comme conclusion aussi à travers notre rapport. C'est 7,6% de la population aujourd'hui. Et bien, si on prend un petit peu de recul, ils étaient 7,5% en 2000, il y a 20 ans. Et on en arrive à la conclusion que la tendance de long terme est plutôt à la stabilité de la pauvreté dans notre pays. Bien sûr, sur cette période, il y a eu des oscillations, hein. On est descendu à un point bas à 6,7% en 2002. On est monté jusqu'à 8,5% en 2012. Mais globalement, vous voyez que sur 20 ans, le taux a peu varié. En revanche, en nombre de personnes concernées, sur 20 ans, la population française a augmenté. Et donc, ça représente 500 000 personnes de plus, hein, qui vivent sous le seuil de pauvreté. Et l'autre élément de stabilisation, de stagnation même, je dirais, sont les revenus des plus pauvres, puisque les 10% les plus pauvres gagnaient au maximum 723 euros par mois en 2003, et c'est 726 euros aujourd'hui, l'effet de l'inflation étant retiré. Donc les revenus des pauvres stagnent, tandis que pour les classes moyennes et les plus aisées, bon an, mal an, sur cette période, ils ont progressé. Donc les écarts se creusent entre les plus défavorisés dans la société et puis le reste de la population. J'y vois à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que notre modèle social a fonctionné, y compris pendant la crise sanitaire, qui n'a pas fait exploser la pauvreté en France comme on pouvait le craindre. Mais aussi que depuis 20 ans, la pauvreté ne recule plus. Et ça, c'est une rupture avec la tendance de long terme, après des décennies de diminution de la pauvreté en France.
Et concernant la grande pauvreté, est-elle aujourd'hui trop peu mise en lumière en France ?
Elle est difficile à cerner. On se doute que sous les 940 euros de notre seuil de pauvreté, les situations sont très différentes, hein, entre une personne sans domicile qui peut gagner très très peu, voire rien du tout, et puis des personnes qui sont au niveau du seuil de pauvreté. Mais les enquêtes sur les revenus réalisées par l'INSEE cernent mal des populations qui sont particulièrement exposées à la misère, hein, les sans domicile, les étrangers arrivés récemment en France, les jeunes. Du coup, on a besoin de faire appel à différentes sources pour essayer de chiffrer ce phénomène. On sait par exemple, d'un point de vue administratif, qu'il y a 4 millions de personnes qui doivent vivre avec le RSA. Hein, c'est de l'ordre de 500 euros par mois, forfait logement déduit, donc c'est très très en dessous du seuil de pauvreté. On sait aussi, on ne dit pas souvent, qu'il y a 1% de la population qui vit avec moins de 444 euros. On s'intéresse plus souvent aux 1% plus riches, mais rarement aux 1% le plus pauvre. Et tous ces chiffres sont sans doute largement sous-estimés, parce que comme je vous le disais, il y a toute une partie de la population qui reste invisible dans l'enquête sur les revenus. Les habitants des DOM, les sans-domicile, les étudiants qui ont quitté le foyer de leurs parents et qui peuvent avoir des ressources très très faibles, les personnes âgées les plus démunies qui vivent dans des EHPAD ou les détenus. Toutes ces catégories de personnes sont mal cernées par les enquêtes sur les revenus. Et du coup, on fait appel à d'autres sources pour faire un focus sur les sans-domicile, notamment les personnes qui recourent à l'aide alimentaire, d'autres sources privées à travers les associations pour essayer de cerner la situation. Mais il nous manque une grande enquête publique sur les sans-domicile, notamment, et sur la misère en France.
Vous l'avez évoqué, vous le soulignez d'ailleurs en préambule de votre rapport, une partie importante des personnes les plus pauvres sont d'origine étrangère parce qu'elles ont notamment des difficultés pour obtenir le droit de travailler.
Oui, c'est un facteur majeur de pauvreté pour les étrangers qui arrivent en France. On pourrait dire de façon générale que de nombreux minima sociaux, y compris pour la population française ou arrivée depuis longtemps en France, sont très inférieurs au seuil de pauvreté. Donc la protection sociale, elle comble une partie, mais elle ne résout pas tout en matière de pauvreté. Il y a beaucoup de Français et d'étrangers qui sont sous le seuil de pauvreté tout en travaillant ou tout en touchant des minima sociaux. Ceci dit, la particularité de ces étrangers récemment arrivés, c'est qu'on leur interdit à la fois l'accès au RSA et l'accès au travail.
Le thème de l'assistanat est régulièrement mis en lumière par certains partis politiques. Ce qui est peut-être moins mis en lumière, c'est le fait que beaucoup de personnes ont droit à des aides qui ne sont pas demandées. Et ce sont souvent des personnes justement qui en ont le plus besoin.
Vous faites allusion au non-recours, au fait que de très nombreuses personnes auraient droit, alors au RSA par exemple, au minimum vieillesse ou à d'autres aides sociales et n'y ont pas recours. C'est quelque chose qu'on sait par définition mal mesuré, qui peut inclure plusieurs phénomènes, notamment la complexité des démarches administratives à accomplir, l'information à laquelle il faut accéder, ça concerne à la fois les personnes âgées et puis aussi les plus jeunes. En l'absence d'un minimum social pour les 18-25 ans, il y a des aides sociales qui existent pour les jeunes, mais elles sont extrêmement complexes et peu connues, notamment par eux. Et puis, il peut y avoir aussi un choix pour une petite partie des personnes. Je peux imaginer que quand on n'a pas du tout de ressources, ce n'est pas le cas pour un grand nombre de personnes pour le RSA, mais quand on est proche des minima sociaux, il peut y avoir aussi une partie du non-recours qui est parfois mesurée, qui relève en fait d'une sorte d'arbitrage entre est-ce que je demande pour 30 euros, puisque les minima sociaux sont versés en déduisant les revenus, c'est un minimum, alors que je dois me confronter à des démarches administratives compliquées et que je suis pas sûre de devoir les rembourser plus tard. Donc c'est un mélange de phénomènes qui pourrait sans doute, alors dire qu'on devrait simplifier les minima sociaux, c'est plus facile à dire qu'à faire, donc voilà, mais qui pourrait sans doute être mieux traité par les pouvoirs publics si, comme on le fait pour les impôts, on imaginait des minima sociaux qui soient versés automatiquement dès lors que l'État connaît nos revenus. Et puis des déclarations sur l'honneur qui pourraient être faites pour dans un premier temps avant de commencer par soupçonner les demandeurs d'une fraude ou leur demander une enquête de police pour accéder à ces minima sociaux.
Quel a été l'impact de la pandémie de Covid-19 face à ce type de situation?
L'INSEE, dans ses enquêtes qui viennent de paraître pour l'année 2020, montre, d'après différentes sources, qu'il y a eu finalement beaucoup moins d'impact que ce que l'on aurait pu craindre sur l'augmentation des inégalités ou sur l'augmentation de la pauvreté en France. Et puis on voit aussi le résultat du quoi qu'il en coûte, puisque des milliards et des centaines de milliards ont été dépensés pour soutenir notamment toutes les personnes qui étaient en CDI, ont été empêchées de travailler pendant des semaines, voire des mois, et qu'on a rémunéré pendant cette période. Ça a permis d'éviter que des millions de personnes basculent dans la pauvreté. Et aujourd'hui, on conclut une stabilité de la pauvreté pendant cette période.
Sachant que les effets de l'inflation n'ont pour le moment pas encore été mesurés.
En effet, les dernières données dont nous disposons datent de 2020, donc l'inflation a démarré plus récemment. On peut dès maintenant faire l'hypothèse que les effets vont être très différenciés selon l'endroit où on se trouve sur l'échelle des revenus, notamment parce que ce qui différencie beaucoup les plus pauvres des plus riches, c'est leur niveau d'épargne. Quand on peut, comme les 20% les plus riches en France en moyenne, mettre de côté 22% de son revenu, ça a été encore plus pendant le Covid, eh bien on peut faire face à une augmentation du plein de l'essence. Quand on a des revenus très faibles, ce n'est pas le cas. Les dépenses de première nécessité représentent une part beaucoup plus importante du budget. On dépense aussi une part plus importante de son budget pour se chauffer et pour se déplacer. Donc ces personnes vont être les plus touchées, notamment celles qui ont besoin de se déplacer pour travailler et puis toutes celles qui ont un logement difficile à chauffer. Ceci dit, tout va dépendre aussi de comment vont être indexés les revenus des moins bien payés, des moins bien rémunérés, ou comment ils vont obtenir, réussir à négocier ou non des augmentations de salaire. On peut imaginer que le SMIC et les minima sociaux vont suivre, il faut l'espérer en tout cas, la progression des prix, mais ça risque d'être bien différent pour des salariés qui sont situés juste au-dessus du SMIC, dont les salaires ne vont pas forcément être indexés. Tout va dépendre un peu du rapport de force entre employeurs et salariés. Et ce ne sont pas les mieux placés pour négocier des augmentations de salaire. Et là, pour les personnes qui sont à temps partiel, qui ont une charge de famille, les familles monoparentales par exemple, beaucoup de femmes employées avec des niveaux de salaire juste au-dessus du SMIC et à temps partiel risquent de voir leur salaire perdre du pouvoir d'achat.
Anne Brunner, directrice des études de l'Observatoire des inégalités. 9 personnes ont été tuées, plusieurs autres blessées dans un double attentat à la voiture piégée en Somalie. C'est arrivé ce matin dans la localité de Maas, dans le centre du pays. Une attaque attribuée au terroriste Chebab. Le comédien marocain Abderrahim Tounsi est décédé. Il était âgé de 86 ans. Celui que le public surnommait Abderraouf est mort des suites d'une longue maladie cardiaque. Le roi Mohamed VI, dans un message adressé à sa famille, salue l'un des pionnier de la comédie engagée au Maroc, connu et aimé pour son authenticité et sa créativité. Bientôt un chèque culture en Tunisie, une annonce de la ministre des Affaires culturelles. Objectif, encourager la consommation des produits et services culturels. Son fonctionnement sera similaire à celui des chèques cadeaux. D'anciens tirailleurs sénégalais, des soldats recrutés par l'armée française vont pouvoir rentrer définitivement dans leur pays d'origine, tout en continuant à percevoir leur minimum vieillesse. Une décision du gouvernement français. Ces personnes étaient jusqu'ici obligées de vivre au moins 6 mois de l'année en France pour percevoir ce revenu de 950 euros. Une quarantaine de vétérans sont recensés par l'Office des anciens combattants. Ils ont tous plus de 90 ans et ont combattu essentiellement en Indochine et en Algérie. L'invité de Pluriel hier soir était Emmanuelle Cosse, ancienne ministre du Logement, présidente de l'Union sociale pour l'habitat. Les maires s'inquiètent de la baisse de la construction de logements sociaux alors que le nombre de ménages en attente d'un logement social a augmenté. Comment l'expliquer, Emmanuelle Cosse?
Il y a un paradoxe énorme. La demande de logement social, elle a augmenté de 20% en 8 ans, donc c'est considérable. Il y a aujourd'hui plus d'1 700 000 personnes qui attendent un logement social, donc c'est énorme. Et à côté de ça, depuis 2018, on n'a jamais aussi peu lancé de construction d'HLM. C'est-à-dire que vous faites référence à quand j'étais ministre, en 2016-2017, on arrivait à produire énormément de logements HLM. Les choses se sont complètement ont périclité depuis. Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Il y en a une première, c'est que on a pris beaucoup moins, enfin en tout cas, le gouvernement a fait beaucoup moins attention aux élus locaux, y compris, vous savez qu'on a supprimé la taxe d'habitation, qu'on a changé beaucoup de fiscalité locale, donc ça peut avoir eu un impact sur l'intérêt des maires à construire du logement social. Je crois aussi, pour dire les choses très franchement, c'est qu'on n'a pas mis assez la pression nationale pour dire qu'on avait besoin de construire du logement social. Moi, quand j'étais ministre, une des missions qui m'était assignée, c'était justement d'aller partout, dans tous les territoires, avec les préfets, pour discuter avec les élus locaux, pour augmenter la construction. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile. Alors, ce n'est pas que lié d'ailleurs au logement social, vous avez dû peut-être en entendre parler, mais l'ensemble des acteurs de la construction se plaignent de la difficulté à produire du logement aujourd'hui, et surtout de produire du logement qui soit pas cher, c'est-à-dire qui soit vraiment en adéquation avec les revenus des Français. Je vous cache pas que je suis très inquiète parce que ça fait maintenant 4 ans qu'on enregistre, 5 ans même, qu'on enregistre une baisse des nouveaux dossiers d'agrément, donc de construction de logements sociaux. Et je vois peu d'éclaircies, en fait. Et c'est vrai que le fait que politiquement on soit peu soutenu, on n'a jamais entendu parler de logement pendant la dernière campagne présidentielle, on n'entend jamais les parlementaires vraiment défendre la nécessité de logement, et en fait on laisse les Français tout seuls avec leurs difficultés à se loger. Parce que la réalité, c'est bien celle-là, en fait, c'est que dans plein de régions, et que ça soit dans des métropoles, dans des territoires périurbains, enfin partout en France, beaucoup de gens galèrent pour se loger correctement.
Est-ce que ce mal-logement s'explique aussi par la flambée des loyers dans le secteur privé ? C'est très difficile de se loger tout simplement parce que la feuille de peine ne correspond pas au loyer demandé.
Alors, ce qui est certain, c'est que les loyers dans le privé, depuis le début des années 2000, ont particulièrement augmenté, ont augmenté deux fois plus vite que les salaires. Et ça explique en partie, en tout cas, pourquoi beaucoup de gens se tournent vers le logement social. C'est parce qu'ils n'ont plus d'autres solutions. Autrefois, il y avait du logement abordable dans le logement social, bien évidemment, mais aussi dans le logement privé. Aujourd'hui, quasiment nulle part, vous trouvez de loyers abordables dans le logement privé. Et on voit quand même que là où l'encadrement des loyers s'est mis en place, on a quand même une modération qui est arrivée. Mais ça ne résout pas tout, évidemment. Ça, c'est la première chose. Et la seconde chose, c'est qu'on manque de logements qui sont mis sur le marché de la location longue durée pour les familles. Parce qu'on a beaucoup en fait de logements, alors c'est particulièrement le cas à Paris et dans des zones très touristiques et dans beaucoup de métropoles, il y a beaucoup de logements qui ne sont plus dans la location parce qu'en fait ils sont mis sur les locations touristiques qui sont bien plus rentables mais qui en fait ont un impact social terrible, c'est que ça enlève beaucoup de logements à la disposition des familles. Il y avait une étude à Paris qui avait montré qu'il y avait plus de 25 000 logements qui avaient été enlevés du marché locatif classique pour aller vers la location touristique. Et on voit qu'aujourd'hui, de grandes villes comme Lyon, comme Strasbourg, se plaignent aussi de cette évaporation. Donc, très clairement, en fait, on n'a pas assez de logements là où les gens vivent. Et je pense que c'est ça aussi une de nos difficultés, c'est que notre territoire national, il change beaucoup. Il y a plus aujourd'hui d'emplois dans l'ouest de la France et moins dans les anciens bassins industriels qui étaient au nord et à l'est. On est en Île-de-France, tout le monde cherche des logements pas chers en Île-de-France. C'est une ville qui est très chère, enfin Paris, mais toute la région Île-de-France est très chère. Donc on voit bien cette difficulté, en fait, elle est globale. Et c'est vrai que ça rend la vie des Français très compliquée parce que, y compris, ça souvent les oblige à aller beaucoup plus loin, à s'éloigner de leur marché, de là où ils travaillent, pour tout simplement pouvoir trouver des loyers à peu près abordables. On l'a bien vu, vous vous en souvenez, pendant la crise des Gilets jaunes, hein, beaucoup de gens, à l'époque, se plaignaient en fait de l'éloignement de leur lieu de vie et de leur lieu de travail.
Emmanuelle Cosse, ancienne ministre du Logement, présidente de l'Union sociale pour l'habitat, l'invité de Pluriel à 19h et 23h sera Denis Osteroun, maire PCF de Bonneuil-sur-Marne, une émission présentée par Loïc Barrière. Le ministre de l'Éducation nationale annonce la création d'une heure par semaine de renforcement ou d'approfondissement en français ou en mathématiques. Cela concernera les élèves de 6e et cet enseignement sera assuré par des professeurs des écoles. Fin de cette édition, vous êtes bien sûr Radio Orient. À 12h30, votre journal en langue arabe présenté par Roger Coury. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 15h pour votre flash en langue française. 17h30 pour le journal. Très bon début d'après-midi à l'écoute de Radio Orient. Bientôt midi 19h.